Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, qui poursuit sa série sur l'impact, l'apport des révolutions arabes sur les rapports de genre au Maghreb et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je reçois une figure du féminisme arabe, une figure iconoclaste, Mona El Tahawi. Elle est journaliste, écrivaine, activiste. Bonjour Mona El Tahawi.
Hello.
Mona, voilà des années que vous dénoncez les violences faites aux femmes en Égypte et dans tout le Moyen-Orient. Vous publiez, après Foulard et Hymen, un nouveau livre, Fuck le patriarcat, un manifeste en 7 péchés capitaux ou vertus féministes pour faire éclater le patriarcat. Comment on fuck le patriarcat?
Well, you know, my first book, like you said, Heads, Calves and Hymens.
Mon premier livre parlait de l'hymen et regardait en fait le patriarcat dans le Moyen-Orient et au Maghreb, en Égypte et dans tous ces autres pays qui avaient eu des révolutions et également ce territoire. Pour Fuck le patriarcat, donc ces 7 péchés capitaux pour les femmes et les jeunes filles, je regarde le patriarcat en fait dans le monde entier, aux États-Unis, où je vis, au Brésil, en Inde, dans le monde entier. Parce que je voulais en fait faire un lien entre le patriarcat de la région du monde où j'étais née et dans le monde entier. Et je voulais dire aux filles qu'effectivement, on emmerde le patriarcat en faisant tout ce que le patriarcat nous dit de ne pas faire. Être en colère, rechercher l'attention, être ambitieuse, dire des grossièretés, être violente, être puissante. La luxure, c'est les 7 péchés. Évidemment, ce n'est pas des péchés, mais pour le patriarcat, car on les appelle les péchés. Et je pense que c'est en fait les 7 péchés nécessaires que nous, femmes et jeunes filles, également les personnes queer, doivent s'engager pour arriver à emmerder le patriarcat.
Prenons chacune de ces vertus féministes que vous listez et dites-nous en quelques mots pourquoi elles sont essentielles.
Alors j'ai commencé avec la colère parce que les filles sont élevées pour être gentilles, polies, sages. Évidemment, tous les enfants naissent avec une énergie incroyable, mais on voit bien comment les enfants élèvent les filles, c'est-à-dire sois sage, fais pas trop de bruit, serre les jambes, sois gentille, sois polie. Ça, évidemment, ça enlève donc cette espèce de colère nécessaire qu'elle pourrait renvoyer contre le patriarcat. Mais en fait, la colère, c'est le début. L'étape 2, c'est « je mérite l'attention ». Parce que, effectivement, on nous a dit que rechercher l'attention, c'était pas bien. Je ne sais pas si vous avez cette phrase en français, mais en anglais, on parle de pute de l'attention. Évidemment, les putes, c'est quelque chose de pas bien pour le patriarcat, ce qui n'est pas mon avis à moi. Hein. Moi, je dis, je mérite de l'attention, mon travail mérite de l'attention, parce que tout ce que je fais mérite de l'attention. Et le point 2, c'est de dire, je mérite de l'attention, regardez mes efforts, regardez ce que je fais. La phase 3, hein, c'est de là que vient cette expression « niquer le patriarcat », c'est le droit à la grossièreté. On nous dit « votre langage aussi ne doit pas être grossier ». Et je dis « laissons tomber ces foutaises, on doit pouvoir dire « nique le patriarcat, nique Trump, nique Fatal Sisi, nique Macron, nique tout le monde hein, ». Parce que pour moi, effectivement, on a le patriarcat et on a les dommages, en fait, que le patriarcat cause. Mon langage doit être aussi libre que je le suis. Ensuite, le 4, c'est l'ambition. Mon acception de l'ambition, c'est pas l'acception traditionnelle, parce que le patriarcat capitaliste nous dit que certaines personnes, certaines femmes peuvent être ambitieuses, c'est-à-dire pour être millionnaire, c'est pas mon ambition ça, pour devenir PDG par exemple, mais ça c'est pas mon ambition non plus. Mon ambition, c'est l'ambition de la liberté. Et mon ambition, elle va au-delà de l'égalité avec les hommes, parce que les hommes ne sont pas libres non plus du fascisme, du capitalisme, du racisme, ou de l'homophobie, ou de la discrimination des handicapés. Hein. Mon ambition, elle est de la liberté. ma guerre est contre le capitalisme comme quelque chose qui a fait naître le patriarcat. C'est-à-dire, quelle est l'ambition pour des femmes de la classe ouvrière, pour des femmes qui sont travailleurs domestiques, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire pour ces filles du Liban ou d'Indonésie qui partent en Arabie Saoudite pour être des bonnes, hein, et qui sont des esclaves? Qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, mon ambition à moi, c'est de repousser en fait les confins du capitalisme.
The sin of ambition for me is to break the confines of capitalist patriarchy and to be free. And then I go to power.
Ensuite, j'arrive à la question de la puissance et du pouvoir. Aux États-Unis, par exemple, on a vu que Kamala Harris venait de devenir la première femme vice-présidente. Alors, effectivement, je célèbre cette nomination de Kamala Harris, mais en même temps, je me dis qu'il ne s'agit pas seulement de célébrer l'accession au pouvoir de certaines femmes. Le féminisme doit permettre à toutes les autres femmes d'être puissantes.
To break patriarchy and all the confines of patriarchy. And then from power, I move to violence.
Ensuite, on en arrive à la violence. Et je dirais que l'un des plus grands tabous pour les femmes, c'est la violence. En fait, quand on regarde les femmes qui sont aujourd'hui emprisonnées, ce sont des femmes qui ont résisté et ont répondu à la violence dont elles étaient l'objet. Ce sont des femmes qui se sont battues contre les agressions sexuelles, contre le viol dont elles avaient été victimes de la part de leur mari ou de leur compagnon. Et effectivement, nous n'avons pas le droit de nous défendre contre la violence que les hommes nous font subir. Et moi, je dis, il faut que les mouvements de libération dans le monde et à travers l'histoire, effectivement, c'était une bataille contre l'occupation et contre le colonialisme. Le patriarcat, c'est de la colonisation, c'est de l'occupation. Et je veux que les femmes et les queers se battent contre la violence et de manière violente contre le patriarcat, qui est une colonisation. Le dernier point, et c'est sans doute mon péché favori, je vais d'ailleurs écrire un livre entier sur cette question, c'est la luxure. La luxure, ça parle pas seulement de sexe, ça parle aussi d'érotisme, ça parle aussi d'une la possibilité d'une expression érotique, d'une expression sexuelle, quel que soit le type de sexualité, que ce soit du transgenre, que ce soit du non-binaire, que ce soit du cisgenre. Et en soi, c'est une forme de résistance révolutionnaire contre le patriarcat. Lorsque je m'exprime sexuellement ou de manière érotique, ça déconcerte le patriarcat. Hein? Et il y a toutes ces existences de genres différents, et je termine le livre en disant que l'expression la plus révolutionnaire de la révolution sexuelle, que ça soit dans mon premier livre ou dans le deuxième, c'est de dire « mon corps m'appartient ». Lorsque je dis « mon corps m'appartient », ça veut dire « c'est pas dans la rue, c'est pas dans ma famille, c'est pas dans l'église, c'est pas ailleurs ». C'est-à-dire « mon corps m'appartient pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir y prendre plaisir ». Et je crois que c'est ça qui est le plus consistant avec la révolution féministe. Et je crois que dire « mon corps m'appartient », c'est la manière la plus révolutionnaire de se battre contre le patriarcat.
Mona, il y a 10 ans, le peuple égyptien se soulevait. Comment la révolution vous a-t-elle transformée? Quel a été l'impact de ce soulèvement populaire sur votre cheminement personnel, intime et politique?
Well, you know, the 25th of January 2011 revolution in Egypt.
Le 25 janvier 2011, la révolution égyptienne a été un moment historique dans ma vie et dans la vie de tous les Égyptiens que je connais. C'était un rêve qu'on avait eu toute notre vie parce qu'on savait qu'on avait le droit à la liberté. Moubarak, c'était seulement un homme de ce régime, hein, mais le but de la révolution, bien sûr, c'était la chute de ce régime, pas seulement la chute de Moubarak. Et quand 10 ans après, je regarde en arrière, je vois qu'on a réussi à faire tomber un homme, mais que le régime perdure. Hein. El-Sisi, c'est un homme du même régime. Donc, la révolution doit continuer, elle n'est pas achevée.
powers outside of Egypt, which is the European Union, the United States and France. Because in France, just a few weeks ago,
ça veut dire que parce que le même pouvoir en dehors de l'Égypte, l'Union européenne, les États-Unis, et on le voit bien par exemple, parce qu'il y a quelques semaines en France, Abdel Fattah el-Sissi a reçu la Légion d'honneur du président Macron. Et c'est effectivement une véritable honte, hein, parce que c'est le président français qui honore un homme qui ne le mérite pas, un fasciste. Un homme qui a détruit la révolution égyptienne. Et effectivement, quand je regarde en arrière ces 10 dernières années, je vois les mêmes pouvoirs occidentaux qui avaient maintenu le régime et qui continuent à le faire en vendant des armes et en lui donnant des honneurs. Et c'est là qu'on est effectivement au niveau global. Si on parle du niveau plus intime, personnel, ce que la révolution m'a fait, c'est de me demander, sur toutes les choses que je ne pouvais pas dire avant, qu'est-ce que je dois dire maintenant ? Je n'étais pas en fait en Égypte, je suis retournée en Égypte en 2011 deux fois. À l'époque, je vivais encore aux États-Unis et en novembre 2011, le régime qui est encore au pouvoir aujourd'hui après Moubarak, la police m'a cassé les deux bras, m'a tenue en détention 12 heures, m'a interrogée, j'étais les yeux bandés.
The Mona that I was had died. And this is a new Mona.
Il y a eu un après et un avant ce moment-là. La Mona d'avant, elle est morte, et la Mona d'après, hein, elle s'est teint les cheveux en rouge vif, elle s'est fait des tatouages sur les bras, et c'est la Mona qu'on retrouve aujourd'hui sur la couverture du livre. Et cette Mona, elle est retournée vivre au Caire pour dire « Je vous emmerde, j'ai survécu à ce que vous m'avez fait subir ». Là, j'ai écrit mon premier livre, donc « Foulard et Imen ». Ensuite, je suis rentrée à New York, rentrée aux États-Unis pour me battre contre Donald Trump qui venait d'être élu président alors que je vivais au Caire. Hein. Et Trump qui qualifiait de el-Sissi de mon dictateur préféré. Hein. C'était le dictateur de mon pays d'origine qui était adoré par le dictateur de mon pays de naturalisation. Et donc, c'est la Mona américaine qui était retournée aux États-Unis pour dire « j'emmerde Donald Trump ».
So this is how the revolution changed me.
Il y a un autre tournant dont vous ne parlez pas dans votre vie avant même la place Tahrir, c'est votre agression sexuelle alors que vous faites le pèlerinage à la Mecque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé ?
So I was born in Egypt when I was 7, my family moved to the UK and when I was 15 my family moved to Saudi Arabia.
Je suis née en Égypte. À 7 ans, mes parents se sont installés en Grande-Bretagne. Et à 15 ans, ils sont allés en Arabie Saoudite. Et 3 semaines après cette arrivée, on est allé en fait faire le pèlerinage à la Mecque, qui est le cinquième pilier de l'islam, hein, puisque nous sommes musulmans. Et là, pour la première fois, donc, j'étais couverte, hormis mon visage et mes mains. J'ai subi une agression sexuelle deux fois. Et la première fois par un homme qui était derrière moi lorsque nous faisions des rondes autour de la Kaaba, un homme qui était un pèlerin ou en tout cas qui en avait l'air, puis c'est un policier qui m'a agressé sexuellement. Dans ce pays, en fait, hein, qui prend en otage le lieu saint de l'islam, je n'avais jamais été touchée, mon corps, par un homme. Du coup, c'est quelque chose que j'ai tu pendant des années et lorsque j'ai brisé le silence, j'ai compris que ce n'était pas à moi d'avoir honte et j'ai commencé à en parler en anglais, à en parler en arabe et parler donc, c'était dire que la honte, c'était quelque chose qui était du côté de ces hommes. Et en 2018, j'ai lancé ce hashtag MeToo Mosquée ou Mosquée MeToo. Hein. Voilà, vous êtes au courant de ce que ce mouvement MeToo que Tarana Burke avait lancé aux États-Unis en 2006 contre Harvey Weinstein. Vous avez eu un MeToo en France aussi, la Balance ton porc. Hein. C'était quoi déjà ?
What's the name of it in French ?
Balance ton porc.
Voilà, c'est ça. Je voulais montrer une solidarité avec les femmes musulmanes qui avaient envie de dire ce qui leur était arrivé à la Mecque ou ailleurs. Il y avait d'ailleurs une femme pakistanaise qui avait témoigné d'une agression sexuelle similaire lors d'un pèlerinage à la Mecque. Et je suis devenue féministe, je dirais, en Arabie Saoudite à 15 ans. Après avoir subi une agression sexuelle, hein, et aussi la vie en Arabie Saoudite, parce que la vie en Égypte est très différente. Je me suis dit que c'était pas du tout une chose égyptienne, hein, et donc c'était pas quelque chose non plus qui était musulman, c'était quelque chose qui était proprement saoudien. Je voulais en fait dire, j'ai été traumatisée par l'Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite que je suis devenue féministe. Et même si ça a été très difficile, je dirais que je suis la femme que je suis devenue à cause de ce patriarcat d'Arabie Saoudite.
Fuck the patriarchy because of Saudi Arabia.
En 2012, vous avez écrit un article très controversé dans Foreign Policy. Vous avez dit « Des hommes au Moyen-Orient, ils nous détestent ». Cette thèse vous a valu beaucoup de critiques de partout, à la fois des milieux progressistes comme des milieux conservateurs. Comment avez-vous vécu cette controverse ?
It did. And you know, I'm really glad I wrote that essay because it was in 2012.
Tout à fait, oui. Et je suis très contente d'avoir écrit, en fait, cet article en 2012, hein. Pourquoi ils nous haïssent? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de regarder en arrière ces 10 dernières années? Tout ce que j'ai dit, en fait, dans cet essai, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Les gens me détestaient, ils étaient très en colère contre moi en 2012, il y a 9 ans. Mais tout ce que j'ai dit, on a besoin d'une révolution féministe notamment, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et si vous me demandez comment est-ce que l'Égypte a changé, qu'est-ce que la révolution a permis d'atteindre en Égypte, on n'a pas réussi à changer le régime, mais là où nous avons réussi, c'est changer les femmes et changer nos demandes, pas seulement pour le régime. Comme je le disais dans cet article et dans mes deux livres, il y a un triangle, en fait. Hein. Il y a la rue, et le troisième point, c'est la maison, et en haut, le point politique. Et l'Égypte et les autres pays de la région ne seront jamais libres tant que nous n'aurons pas cassé ce triangle. Ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est que les femmes sont en train de briser ce triangle. Les femmes sont à l'avant-garde de cette révolution et elles sont en train de dire « nique le patriarcat ». Et les femmes en Égypte disent actuellement « nous méritons d'être libres hein, ». Ce qui était tout le propos de mon article à l'époque, bien sûr, c'était très polémique, mais aujourd'hui ça ne l'est plus et je suis extrêmement heureuse d'avoir à l'époque soulevé la controverse.
Être féministe et musulmane paraît encore très incompatible en Occident, tant les clichés sur les femmes originaires du Maghreb et du Moyen-Orient ont la vie tenace. Encore aujourd'hui, le monde occidental écarquille les yeux, comme si c'était une anomalie que des femmes arabes, berbères participent à des révolutions, alors même qu'elles occupent les places contestataires et politiques depuis longtemps. Comment vous l'expliquez? Comment cela vous atteint?
Dans mon premier livre, l'un de mes objectifs principaux était de lister toutes les féministes qui m'avaient inspirée et qui continuaient à le faire. Alors, 4 de ces féministes historiques. D'abord, il y avait Oda Charaoui en 1923 en Égypte qui avait enlevé son voile en disant « ça appartient au passé ». C'était une femme musulmane qui a lancé le mouvement féministe en Égypte. Le féminisme en Égypte, il n'est pas venu de l'Occident. On avait les nôtres. Hein. C'est 1923. Ensuite, Doria Shafik, en 1952, qui prend d'assaut le Parlement égyptien avec d'autres femmes, avec 1500 autres femmes, en demandant le droit de vote, qui sera accordé 2 années après. Et ensuite, la sociologue marocaine, Fatima Mernissi, hein, qui a eu un rôle très, très important dans mon féminisme, particulièrement quand j'ai décidé d'enlever mon hijab, parce que je portais le hijab pendant 9 ans. Et c'est une femme qui vraiment a eu un rôle très important pour m'enlever le hijab, parce que j'ai compris que ce n'était pas seulement une manière d'être musulmane. Hein. Et une autre, en fait, femme musulmane, c'est Nawad El Sawawi, qui est égyptienne également, que j'ai interviewée en la rencontrant plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué le féminisme en Égypte. Et aujourd'hui, par exemple, hein, il y a en prison en Arabie Saoudite, Lujaim Al-Tawal, qui est prisonnière de Mohammed bin Salman. Elle est en prison parce qu'elle est féministe. Et le féminisme fait peur au régime saoudien. Il y a aussi des féministes qui sont emprisonnées en Algérie, en Libye, en Syrie, au Liban, partout dans la région. J'ai fait un documentaire en 2015 pour la BBC où je suis allée notamment en Jordanie pour interviewer des féministes qui avaient aidé à changer la loi contre le viol, sur le mariage, etc. Donc, nous avons eu dans le monde arabe le féminisme comme un héritage depuis très très longtemps. Et en même temps, je posais la question à ceux qui disaient « c'est incompatible avec la religion ». Je disais « mais arrêtez d'être obsédés avec cette question ». Je vois des chrétiens évangéliques qui ont été très importants pour l'élection de Donald Trump, y compris des femmes qui sont aussi obsédées parce que leur vote pour Donald Trump, c'est un vote qui met le monde entier en danger, c'est-à-dire quand ils choisissent un fasciste comme Donald Trump pour être à la tête du pays le plus important du monde, il faut se battre contre ces gens-là. Mais je crois qu'en fait, chacun doit se battre contre ses propres obsédés. En France, vous devez demander à Catherine Deneuve pourquoi une femme si libre a été contre le mouvement MeToo. Demandez à Macron pourquoi il a choisi Premier ministre et un ministre de la justice qui sont des gens qui ont les positions qu'ils ont contre le féminisme. Donc, il faut être obsédé avec les gens de votre propre culture. Il faut se battre contre les gens de votre propre culture. And leave feminists like me and you and others
who are fighting to fight without interference. Vous dites que vous avez jeté votre hijab. Comment avez-vous fait pour concilier voile et féminisme? Je vous pose cette question parce que pour de nombreuses femmes musulmanes, c'est une liberté. Vous parlez depuis les États-Unis. Comment on fait quand on parle depuis cette région du monde qui diabolise beaucoup ce qu'il se passe dans le monde arabe pour que vos discours ne soient pas instrumentalisés en Occident par ceux qui se lèvent contre le voile, qui véhiculent des caricatures sur la femme arabe victime opprimée parce que voilée ou...
No, I understand, and this is very important, especially for France, because you have laws.
Oui, je comprends que c'est quelque chose de très important en France parce que vous avez des lois contre le niqab, contre le hijab, contre le voile. J'ai passé la moitié de ma vie, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu en Arabie Saoudite, donc j'ai vécu dans des pays à majorité musulmane où je sais que le voile a un symbolisme politique très différent qu'en France ou aux États-Unis ou en Occident. Évidemment, en comprenant ça, je comprends que je suis en fait sur un terrain très difficile. Et pour arriver à naviguer là, je me dis toujours qu'il faut que je m'imagine entre le marteau et l'enclume. Hein. On a cette expression en anglais, ces deux expressions en anglais. Je dirais que d'un côté, il y a donc l'enclume, les gens qui sont islamophobes et racistes, comme le Front National en France, mais il y a aussi des gens de gauche hein, qui ont ce genre de vision aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce sont des gens islamophobes et racistes. Et ils veulent utiliser mon discours, mon travail, pas parce qu'ils se soucient des femmes musulmanes, mais ils veulent diaboliser les femmes musulmanes. À ces gens, je leur dis merde. Et de l'autre côté, il y a ma communauté, les musulmans, certains sont misogynes, et veulent que je me taise, et ils veulent que je me taise parce qu'ils me disent, en fait, votre travail va créer l'émulation, va inspirer des gens. Donc, évidemment, ils ne sont pas non plus de mon côté. Ils veulent me faire taire et ils veulent m'utiliser. Donc, à ces gens-là, je leur dis aussi merde. Parce que ces deux côtés, et je suis entre les deux, ils se battent les uns contre les autres. Voilà. Il y a ceux qui diabolisent les musulmans, il y a ceux qui les défendent, mais moi, je ne suis d'aucun côté. Lorsque je parle du voile ou du niqab, et c'est comme ça que ma position a évolué, je dirais, sur les 10-15 dernières années, je dis ça, c'est un débat qui appartient aux femmes musulmanes et aux femmes d'origine musulmane. Si vous n'êtes pas un musulman ou d'origine musulmane, taisez-vous, ne parlez pas, n'intervenez pas, laissez-nous le débat, parlez-vous, ayez des débats sur des questions qui vous concernent. Arrêtez de nous utiliser, arrêtez d'utiliser mes mots, arrêtez d'essayer de me faire taire, parce que je ne vais pas me taire. Je dirai toujours merde aux gens qui sont islamophobes et à droite, et aussi merde aux misogynes de ma communauté.
Thank you very much, Mona. Merci beaucoup, Mona Al-Tahawi. Fuck le patriarcat, les 7 péchés pour prendre le pouvoir, paré le 4 février aux éditions Masso. À très bientôt sur Mediapart pour un nouveau numéro de la Révolution féministe.